Le grand rendez-vous de l'immobilier par Radio Immo et Capital, une émission présentée par Christine Lejoux et Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et tout d'abord, bonne année. Souhaitons que cette année vous soit douce, avec beaucoup de santé, de la prospérité et puis un peu plus de calme dans nos sociétés qui en ont quand même bien besoin. Je suis très heureux de vous retrouver sur Radio Immo avec nos confrères de Capital pour produire ce 61e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Vous savez, c'est maintenant où vous êtes habitués à nous suivre régulièrement. On a eu un petit peu une petite période de reprise, mais voilà, c'est reparti pour l'année 2025. Je suis très heureux d'être avec vous et j'ai l'honneur d'ailleurs de co-animer ce magazine avec une grande dame de l'immobilier qui est journaliste spécialisée, Christine Lejoux, bonjour.
Bonjour Sylvain, l'honneur est partagé, très heureuse d'être avec vous. Bonne année, effectivement c'est une année qui commence pas mal du tout pour les acheteurs immobiliers parce qu'après 2 ans et demi de crise de l'immobilier, eh bien on a un début d'embellie du marché qui pourrait être aidé par le projet de loi de finances dont l'examen vient enfin de reprendre au Parlement, c'est pas trop tôt. Et autre gros sujet, l'interdiction de location des passoires thermiques G. Depuis le 1er janvier.
Gros sujet.
Très, très gros sujet. Et nous parlerons de tout cela avec Loïc Quentin, le président de la FNIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier.
Merci Christine. Effectivement, on ne pouvait pas démarrer sans avoir aujourd'hui le représentant de la filière avec Loïc Quentin que nous recevrons tout à l'heure pour le grand entretien. Bien évidemment, ma chère Christine, tradition oblige, nous avons nos experts qui viennent nous visiter chaque mois. Ils sont avocats, ils sont notaires, ils sont experts comptables, ils peuvent être des professionnels de l'immobilier ou de la gestion immobilière. Ils viendront tous les mois pour répondre à vos questions dans la séquence qui vous intéresse, puisque c'est ça vous concerne. Bien évidemment, toutes ces questions, vous les posez sur l'application de Radio Immo, mais également sur le site de Capital, et on vous y répond chaque mois. Voilà, c'est parti pour le menu de ce 61e numéro. On se retrouve tout de suite après ça.
L'actu de l'immobilier.
Voilà, de retour sur le plateau, on va inaugurer une nouvelle chronique, effectivement. On va commencer par une actu, une espèce de journal dans lequel on va essayer d'égrener toute l'actualité. Dieu sait qu'il y en a à la rentrée 2025, ma chère Christine. On va parler déjà du pouvoir d'achat, bien sûr, immobilier, qui est en train de s'améliorer, un double effet à la fois de la baisse des prix, mais aussi de la baisse des taux. Est-ce que ça va durer? Et est-ce qu'on peut déjà peut-être faire une projection sur l'année 2025? C'est à vous, Christine.
On va essayer, Sylvain. C'est vrai qu'après 2 ans et demi de crise immobilière, on a, en ce début 2025, un alignement des planètes plutôt favorable pour les acheteurs immobiliers, avec, comme vous l'avez dit, d'une part, une baisse des taux de crédit et de l'autre part, une baisse des prix. Les taux de crédit, on le rappelle, ils avaient quadruplé en seulement 2 ans, de début 2022 à fin 2023, ce qui avait obligé beaucoup d'acheteurs immobiliers à remettre leur projet d'achat à plus tard. Là, ça fait 1 an qu'ils baissent régulièrement les taux parce que l'inflation s'est calmée, parce que la Banque Centrale Européenne a baissé ses propres taux. Et là encore, en janvier, on a des taux toujours en baisse. Par exemple, sur la durée de crédit la plus courante, qui est 20 ans, vous avez à peu près un taux à 3,30%. Ça fait un point de moins par rapport à l'an dernier. Si vous avez un super dossier, Sylvain, avec des revenus corrects, un apport assez conséquent, les banques peuvent même vous proposer un taux un petit peu en dessous de 3%. Elles sont au taquet pour prêter parce qu'elles ont des objectifs commerciaux importants à remplir pour cette année. Parallèlement à cette baisse des taux, eh bien, vous avez une baisse des prix. Depuis 2 ans, alors on parle bien des prix des logements anciens, pas du logement neuf, mais depuis 2 ans, les prix de l'immobilier ancien ont chuté de 4% pour les appartements, pour les maisons, c'est un petit peu plus, près de 6%, tout simplement parce que les vendeurs ont fini par se faire une raison. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus exiger des acquéreurs de payer des prix aussi élevés que quand les taux de crédit étaient à 1%. Du coup, quand on conjugue baisse des taux de crédit et baisse des prix, eh bien, on a des acheteurs qui, aujourd'hui, en moyenne, peuvent acheter 5 à 6 mètres carrés de plus qu'il y a un an. Dans certaines villes, c'est même à peu près 10 mètres carrés, donc ça fait une pièce en plus, sur la base d'une mensualité de crédit identique. Comme vous le disiez tout à l'heure, toute la question est de savoir combien de temps cet alignement favorable des planètes...
Comment ça va durer?
Voilà, combien de temps ça va durer.
Parce que si la baisse des taux engendre mécaniquement une hausse des prix, comme on l'a vu pendant les 10 dernières années,
voilà.
Ça va être compliqué.
Et alors, cette baisse des taux, d'ailleurs, elle va durer combien de temps? Pour l'instant, on a des courtiers en crédit immobilier qui sont plutôt optimistes. On a quand même une incertitude. C'est le taux auquel la France, elle, emprunte sur les marchés financiers auprès des investisseurs. Notre situation politique étant ce qu'elle est, nos finances publiques étant ce qu'elles sont, on a ce taux d'emprunt de la France qui a pas mal monté ces dernières semaines, il flirte avec les 3,50. Et comme les banques se basent notamment sur ce taux pour déterminer les taux de crédit immobilier, certains courtiers commencent à se dire que la baisse des taux de crédit qu'on a vue régulièrement depuis un an, elle va peut-être se calmer. Quant à la baisse des prix, ça peut être un peu la même chose. Est-ce que le gros de la baisse des prix, il n'est pas déjà derrière nous? Tout simplement parce que le marché commençant à reprendre, les gens commençant à acheter de nouveau des biens immobiliers, dans certaines villes, les prix commencent à remonter. Et on a par exemple le réseau d'agences immobilières Century 21 qui prédit une augmentation de 2 à 3% des prix des logements anciens en France cette année.
Oui, alors on pourrait dire sur le principe que la baisse des prix n'est pas significative du style c'est 5, 10 ou 15%, mais les amis, on vous donne une moyenne nationale. Ça veut dire qu'il y a des régions, je prends par exemple le cas de Bordeaux ou de Lyon, qui ont été des villes, il faut le dire, un peu surcotées, avec une vraie spéculation immobilière sur les prix, c'est-à-dire une décorrélation entre le prix de l'immobilier et le revenu, de l'ordre de 15%, par exemple. Il n'était pas rare de voir des baisses, bien évidemment. Alors, on a un gros sujet, puisqu'on a bien compris, pour les acheteurs comme pour les vendeurs, que les couleurs recommencent un petit peu à briller. Faut espérer que ça dure, mais le marché locatif aujourd'hui c'est une véritable catastrophe. On a, je vous donne juste un chiffre, c'est 49% de locations en moins sur une année glissante dans les grandes métropoles. Bref, c'est une galère de trouver un logement en location, que ce soit côté investisseur ou locataire, Christine.
Oui, le début d'année est beaucoup moins rose que du côté des acheteurs immobiliers, et notamment, on en parlait tout à l'heure au début, il y a cette innovation, cette grosse nouveauté du début de l'année, du 1er janvier 2025, qui est l'interdiction de mise en location des passoires thermiques qui sont notées G sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. On va être très concret. Aujourd'hui, si vous êtes propriétaire bailleur d'un logement G, en janvier 2025, vous n'avez plus le droit de le mettre en location. Si vous avez déjà un locataire en place, pas de problème. Mais si la date anniversaire de votre bail arrive le 20 février, votre locataire peut vous dire, dites donc, votre logement est léger, donc vous allez me baisser le loyer. Ou alors, je vous emmène chez le juge pour avoir une injonction de travaux de rénovation énergétique à faire.
Mais si par exemple, il faut reloger le locataire, c'est à la charge du propriétaire.
Alors, ça c'est en débat. C'est effectivement un gros sujet. Et question travaux, c'est quand même compliqué, parce que selon la FNAIM, le coût moyen pour rénover un logement noté G sur le DPE, c'est 40 000 euros.
Ah, quand même.
C'est 40 000 euros. Tout le monde ne peut pas se permettre ça, loin de là.
Surtout qu'en plus, on a plein de petits propriétaires bailleurs qui n'ont pas forcément les moyens de le faire.
Et exactement. Et du coup, c'est pour ça que certains, et peut-être même beaucoup de ces petits propriétaires bailleurs, ne vont pas avoir d'autre solution que de vendre leur logement G, ce qui va réduire encore la taille d'un marché locatif qui a déjà diminué comme peau de chagrin ces deux dernières années, sous l'effet de la crise immobilière, parce qu'il y a beaucoup de locataires qui auraient bien voulu devenir propriétaires, mais quand les taux étaient à plus de 4%, ils n'ont pas pu le faire, donc ils n'ont pas libéré leur logement, rétrécissant donc du coup le marché locatif. On a quand même un petit espoir dans une proposition de loi qui a été élaborée par deux députés et qui doit permettre aux logements notés G situés en copropriété de déroger à cette interdiction de mise en location sous certaines conditions, notamment si le propriétaire peut prouver qu'il va faire des travaux de rénovation énergétique. Le problème, c'est que cette proposition de loi, comme le gouvernement Barnier, a été censurée, elle n'a pas pu être examinée avant le 1er janvier. Elle le sera fin janvier.
C'est
voilà.
Clair. Vrai sujet. D'ailleurs, il y avait même l'élargissement du PTZ, etc., qui était en question. Enfin, toutes les mesures qui avaient été prises en place dans le gouvernement Barnier. Enfin, la bonne nouvelle du nouveau gouvernement Bayrou, c'est la reconduction de Valérie Létard, qui a priori a bien compris.
La ministre du Logement, tout à fait.
A bien compris le projet. L'examen du projet de loi de finances qui a donc été reporté au 15 janvier. Est-ce qu'on peut espérer, si on devait, Christine, dire à nos auditeurs le plus basiquement possible, quelles seraient les mesures qui permettraient de relancer tant soit peu la machine?
Alors, vous en avez parlé, la principale, c'est l'élargissement du prêt à taux zéro. On le rappelle, c'est un prêt qui est réservé aux primo-accédants.
Et puis, ça a toujours très bien marché.
Ça a toujours très bien marché. Le problème de ce prêt, c'est que l'année dernière, il a été recentré sur les appartements neufs. Les maisons individuelles neuves n'y sont plus éligibles. Et il a été recentré sur les zones qu'on appelle tendues, c'est-à-dire où la demande de logement est beaucoup plus forte que l'offre.
Le non-sens absolu. Enfin, je veux dire, voilà, il était temps.
Et du coup, donc c'était une mesure qui était portée par Michel Barnier et qui est reprise par François Bayrou dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, c'est d'élargir de nouveau ce prêt à taux zéro aux maisons et aux zones dites détendues. Ça, c'est vraiment la mesure qui est la plus importante.
Oui, vraiment la mesure.
Voilà, et qui est portée par Valérie Létard, hein, la ministre du Logement.
Et dont on sait d'ailleurs que c'est le mécanisme, avec bien sûr la combinaison des baisses des taux de crédit, qui permet de resolvabiliser la primo-accession, de regagner, effectivement. Donc, si on prend la baisse des taux qui regagne un peu de pouvoir d'achat, accompagné d'un prêt à taux zéro, je rappelle que le prêt à taux zéro, c'est peut-être aussi l'apport qui vous manque.
C'est ça, l'apport, pour pouvoir exactement.
Pour pouvoir faire l'achat de votre bien, parce que c'est toujours extrêmement sécurisant d'acheter plutôt que de louer, hein, bien évidemment. Est-ce que nous avons d'autres mesures dans le pipe?
On a une seconde mesure, là aussi, qui est voulue par la ministre du Logement, c'est l'exonération de droits de succession des donations faites aux enfants et petits-enfants pour l'achat d'un logement neuf dans la limite de 100 000 euros pour une durée d'un an. Après, toute la question est de savoir quand cette exonération pourrait entrer en vigueur en 2025. Ça va dépendre évidemment de l'adoption du projet de loi de finances. Mais Monsieur Bayrou a dit qu'il l'espérait pour la mi-février. Je finis juste une autre mesure qui là est moins sympa, mais le Premier ministre la reprend. C'est la hausse des droits de mutation, plus connue sous le nom de frais de notaire.
Voilà. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose, effectivement, qui enfonce le clou déjà des propriétaires qui ont été mis à l'os. Alors c'est vrai que j'ai pas été très tendre à la suite du discours de politique générale avec François Bayrou, parce que bon, c'était quand même très surprenant comme discours. Ce à quoi on se raccroche, les amis, c'est effectivement Valérie Létard, ministre du Logement, qui connaît très très bien les dossiers. Vous voyez, cette information, on vous la donne tous les mois pour justement égrener spécifiquement pour vous et vous faire comprendre le plus clairement possible les actualités immobilières. Un grand merci à vous, Christine. C'est le moment, on va se retrouver tout à l'heure avec la grande interview. On va attendre bien sûr beaucoup d'informations de la part du président de la FNAIM, la fédération qui est aujourd'hui la représentation de l'ensemble des métiers, syndic, copropriété, administration de biens et transactions. C'est Loïc Quentin qu'on va recevoir dans quelques instants.
La grande interview.
Bien rebonjour les amis, voilà, vous êtes toujours dans le 61e numéro du grand rendez-vous de l'immobilier qui a été revu et corrigé pour vous proposer un programme toujours au plus près de vos préoccupations. Je suis toujours bien sûr accompagné de Christine Lejoux. Merci Christine. On a souhaité redémarrer ce rendez-vous du grand rendez-vous de l'immobilier avec la personne qui compte dans le paysage immobilier français, puisqu'il est le président de la FNAIM. Il est avec nous sur le plateau. Soyez le bienvenu. Bonjour Loïc Quentin.
Bonjour Sylvain, bonjour Christine.
Merci bonjour d'être Quentin. Avec nous. La FNAIM, c'est la locomotive des professions immobilières. Je vous propose, mon cher Loïc, comme il sera désormais de tradition, que la première question vous soit posée par Christine Lejoux.
Oui, Quentin, c'est bientôt le printemps. Le printemps, traditionnellement, c'est la grosse saison des achats dans l'immobilier. L'an dernier, en 2024, on n'a pas eu ce printemps de l'immobilier parce qu'on avait des taux de crédit, notamment, qui étaient encore élevés. Là, le printemps 2025 dans l'immobilier, comment s'annonce-t-il selon vous ? Est-ce que on peut commencer à dire que la crise immobilière, qui dure depuis plus de 2 ans et demi désormais, elle est derrière nous ?
Oui, la crise immobilière est derrière nous, mais la crise du logement est devant nous. C'est ce que j'ai précisé à notre conférence de presse, on pourra peut-être en parler. Mais oui, c'est vrai, il y a une embellie. Une embellie qui, notamment, correspond à une reprise, je dirais, des volumes, à une atténuation de la chute des volumes, qui était partie, rappelons-le, 1er janvier 2024, à 869 000 transactions, on va finir à 780 000. Bon, on espère, je dirais, à un horizon à 830 000 à la fin du premier semestre, peut-être l'année prochaine. Donc, il y a un rattrapage des volumes, mais aussi il y a une décélération des prix. Donc, les deux composés ont permis, bien évidemment, grâce et surtout un événement majeur, il ne faut pas se le cacher, c'est 4 baisses successives du taux de la BCE qui ont permis de reconstituer le pouvoir d'achat des ménages, leur capacité d'emprunt, et qui était salutaire pour pouvoir correspondre avec les prix. Alors, la baisse des prix, elle est constatée, mais elle n'est pas la même partout.
Alors, c'est important ce que vous dites, puisque pour ceux qui nous écoutent, surtout des particuliers, on dit oui, mais il faut faire une différence entre la crise de l'immobilier et la crise du logement. C'est bien deux choses différentes. Parce que je voudrais qu'on vous redonne la parole justement sur cette crise du logement qui est réellement structurelle dans notre pays et conduite par des politiques publiques qui sont quand même très délétères pour le logement des Français. Mais on va reparler sur la baisse des prix, la baisse des taux. Alors on a vu un peu l'équivalent de quasiment presque 200 points de base de baisse. Quand on le voit maintenant depuis quasiment un an, d'ailleurs la BCE a réannoncé une baisse de taux pour ce début d'année, je crois qu'il va peut-être en avoir deux, donc on est légèrement peut-être pour les bons dossiers à moins de 3% sur les durées. Quand on prend justement, si je vous demandais de votre point de vue, vous professionnel, de me dire quelle sera la trajectoire des taux dans les mois qui vont venir, et comment vous voyez finalement cette idée peut-être chronique, est-ce qu'on en sortira ou pas d'ailleurs, qui fait qu'à chaque fois qu'on a une baisse des taux, on a peut-être des propriétaires qui en profitent pour compenser cette baisse en augmentant peut-être les prix. Parce que là, pour la première fois finalement dans l'histoire de l'immobilier, peut-être depuis une bonne quarantaine d'années, on voit se conjuguer un double effet de baisse des taux et de baisse des prix. Confirmé.
Oui, baisse des taux et augmentation des prix, pas baisse des prix. Hein,
quand... Donc la baisse des taux va entraîner mécaniquement une baisse des prix.
Les faits, c'est vrai que aujourd'hui on a atteint, je dirais, à fin 2022 un atterrissage. On était quasiment à 0,78-0,70 de taux d'intérêt sur les marchés qui ont subitement grimpé à 4. Donc c'est-à-dire que la décélération que nous avons connue de 2009 à 2022 était une décélération où on est parti de 5,2 pour atterrir à 0,80. Donc on a finalement donné un pouvoir d'achat très fort aux ménages français, mais notamment qui s'est traduit par une augmentation des prix. À l'inverse, quand les taux d'intérêt repartent à la hausse, ça se traduit aussi mécaniquement par une baisse des prix. Donc finalement, les prix de l'immobilier font le yo-yo. Et à un moment, il faudra se poser la question, notamment d'avoir une véritable ingénierie financière. Comment stabiliser et voire même caper des taux pour éviter ce genre de variation? C'est une réflexion. D'ailleurs, on fera peut-être des propositions prochainement.
Et c'est même d'ailleurs un sujet sur lequel vous vous êtes emparé, puisque vous aviez proposé la portabilité.
La portabilité, c'est autre chose. C'est permettre de conserver le même...
La portabilité, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de conserver les taux acquis.
Ah, tout à fait, absolument.
Si je prends juste l'exemple des taux qui étaient pratiqués il n'y a pas si longtemps que ça, on a l'impression que ça fait une éternité, mais qui étaient par exemple à moins de 2%, par exemple, ça permettrait, lorsqu'aujourd'hui on est entre 3,20 ou 3,30...
Oui, vous avez emprunté à 1, voilà. Vous êtes affiché aujourd'hui, vous êtes confronté à un marché à 3,5, on préfère garder son prêt conclu à 1% sur une autre acquisition. Et notamment, ça favorise aussi les mutations et la mobilité résidentielle de beaucoup de ménages.
Les banques sont pas d'accord. Hein,
non, elles sont pas d'accord.
C'est intéressant pour elles, en fait.
Non, mais je crois qu'à un moment, c'est le courage politique qui manque dans ce pays. Parce que les banques, bien évidemment, si on leur demande, on leur empêche de refaire un crédit, de rembourser, elles vont préférer reprêter à plus cher plutôt que de transférer un crédit qui était octroyé à moins cher.
Donc,
à un moment, c'est le courage politique, oui. Quand on veut véritablement accompagner les Français, on renoue avec des pratiques que nous connaissons. La pratique de la portabilité des prêts, elle existait déjà dans les contrats des banques françaises, et ils n'ont pas eu peur. C'est quand les taux baissaient, bien évidemment, là, ils pouvaient le faire. Dès que les taux remontent, on ne peut plus le faire. La transférabilité, elle existait dans ces crédits dans les années 80, et aujourd'hui, quelque chose on peut renouer avec ces pratiques. Donc, je crois que c'est une commande politique qu'il faut avoir. Il y avait un député, Damien Adam, qui a fait une proposition à l'Assemblée nationale. Il n'a pas été élu aux dernières élections législatives. Ce projet de loi est en suspens et sera certainement repris. Moi, je vais tout faire pour que ce soit repris. Parce que il faut éviter, justement, nous ne sommes pas à l'abri d'une hausse des taux. Et vous l'avez dit, Sylvain, tout à l'heure, on espère encore 2 ou 3 baisses de la BCE et sera salutaire pour accompagner le pouvoir d'achat des ménages. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une hausse des taux.
À cause des taux d'emprunt à 10 ans de la France, c'est ça notamment qui vous
fait dire? Oui, aujourd'hui, les taux d'emprunt, les taux des OAT, les obligations émises par l'État
pour ressourcer
et refinancer le budget et le déficit de la France, on est à 3,50 quoi aujourd'hui.
Voilà. Et effectivement, on rappelle que les banques, pour former leur taux de crédit immobilier, elles se basent notamment sur ces taux d'emprunt à 10 ans de la France.
Tout à fait. Il y a toujours une corrélation entre les taux des prêts immobiliers et les taux des OAT. Or, aujourd'hui, c'est l'exception que l'on traverse. Les taux d'intérêt baissent, les taux des OAT remontent. Et à un moment, il va y avoir un problème de refinancement. Et l'autre aspect aussi, c'est aujourd'hui l'administration américaine est en place, la nouvelle, avec une politique inflationniste très forte, qui va avoir un impact très fort sur les taux et une inflation qu'on va de toute façon importer.
Absolument. À l'heure d'ailleurs où nous tournons cette émission, il y a le discours d'investiture, l'investiture de Donald Trump. Justement, on en a parlé avec Christine. Christine, réaction sur le discours de politique générale de François Bayrou qui nous a laissé, on va dire, dans une certaine incertitude, on peut le dire.
Oui, absolument, parce que François Bayrou, lors de son discours de politique générale du 14 janvier, a certes déclaré qu'il voulait relancer l'accession à la propriété, mais il n'est pas allé tellement plus loin. Concrètement, il ne nous a pas dit comment il comptait faire. Quelles idées pourriez-vous lui souffler au Premier ministre, Loïc Quentin ?
Alors moi, je dis que le discours du Premier ministre, c'était un discours de bonne intention, comme on a assisté à beaucoup de discours de politique générale, tous les candidats, tous les nouveaux premiers ministres.
Je trouve hyper politique, Loïc Quentin.
Pourquoi ?
Ah bon ? Oui, je veux dire, au discours...
Oui, classique,
voilà, j'étais un peu plus nerveux à la réaction de ton chef, parce que franchement...
Voilà. J'étais attentif à ses propos. Voilà, il a parlé en termes généraux. Ce que l'on sait, c'est que il a écrit une lettre au Parti Socialiste il y a trois jours.
Oui.
Et cette lettre-là prévoit que, notamment, que le prêt à taux zéro, qui était notamment prévu initialement, préalablement, sur le neuf et l'ancien pour toutes les catégories, ne se ramène plus qu'au neuf. Donc voilà, là, c'est une grande déception, parce que s'il y a bien un parcours qu'il faut effectivement accompagner, c'est le parcours des Français avec l'accession, et le prêt à taux zéro est destiné vers les primo-excédents, vers ceux qui n'ont jamais...
Que ce soit du neuf ou de l'ancien.
Ou de l'ancien.
Absolument.
Mais si on ramène ça qu'à la portion qu'on veut du neuf, ce n'est pas entendable. Donc voilà, ça c'est une grande déception de ce côté-là. Le marché aujourd'hui, que le marché fluctue, que l'on vende aujourd'hui moins cher et qu'on achète moins cher pour quelqu'un qui est déjà propriétaire, ce n'est pas un problème. Mais quelqu'un qui n'a rien, il a besoin d'être accompagné, aider. Et le prêt à taux zéro dans l'ancien tombe juste à propos pour permettre d'accompagner des primo-accédants. On le dit depuis un moment, il y a une véritable paupérisation de l'accession à la propriété en France, et notamment chez les plus jeunes.
Oui, et là, l'idée, visiblement, du gouvernement, dans le cadre du projet de loi de finances, c'est certes d'élargir le prêt à taux zéro aux maisons, au-delà des appartements et aux zones détendues, mais pour l'ancien, rien ne doit changer. Enfin, dans la copie du gouvernement, visiblement.
Absolument. Ouais. Ouais.
Alors, justement, c'est un sujet. Alors, bon, peut-être nous journalistes avons peut-être une liberté de parole plus élevée, mais j'étais assez sévère sur le discours de politique générale, puisque justement, en cours d'examen, on a ce fameux projet de loi de finances. Il y a aussi l'exonération des droits de succession pour les donations aux enfants et petits-enfants pour l'achat d'un logement neuf dans la limite de 100 000 euros. Mais parallèlement, on songe aussi une augmentation des droits de mutation. On a l'impression, Loïc Quentin, je voudrais vraiment vous faire réagir là-dessus pour finir cette première partie d'émission. C'est je vous donne une petite carotte, mais alors immédiatement, dès que vous tendez le bec, je vous mets un coup de bâton. On a vraiment l'impression que ça distille et qu'il y a une réelle incompréhension, alors on peut le comprendre sur l'instabilité politique, sur la réalité profonde de la crise du logement des Français.
Bayrou souffle un peu le chaud et le froid, c'est ça.
Non, mais je crois que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, sont bien conscients de la crise du logement en France, mais ne trouvent pas de solution qui correspond à une idéologie qu'il faut rassembler. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une stratégie de compromission qu'une stratégie d'action et notamment d'efficacité. Quand on reprend notamment l'exonération des droits de succession, on ne sait pas si c'est 100 000 par enfant, par personne du couple, parce que ça pourrait porter à 200 000. Mm-hmm. Moi, je suis contre cette mesure.
Pourquoi ?
Je suis contre parce que je considère qu'elle doit s'étendre, notamment elle doit être convertie. Tous les ménages n'ont pas 100 000 de donations à faire à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Et je suis pour un système d'équité. Et le système d'équité, 100 000 euros d'exonération de droits de donation, c'est 20 000 euros, 20%.
Oui.
Les 20 000 euros, moi je propose qu'on les reconvertisse pour les primo-accédants qui souffrent. 20 000 euros sur 20 ans, c'est 1 000 euros par an. C'est 85 euros de mensualité par mois. Pourquoi ceux qui n'ont rien à transmettre ne pourraient pas faire bénéficier à leurs héritiers le même droit que ceux qui disposent de quelque chose? C'est une question d'équité. Et je ne suis pas... Je crois que c'est un souci que devraient avoir tous les élus et tous les responsables.
Présentez-vous, je vote pour vous. Parce que ça, c'est que du bon sens. Que du bon sens. que du bon sens. Mais ça, c'est un sujet dont on parlera, si vous voulez bien, qu'on va continuer avec Christine à développer dans la deuxième partie de l'émission, justement, sur les difficultés de marché. On se retrouve tout de suite après la séquence avec vos experts qui vont répondre à vos questions. À tout de suite.
Vos questions, nos réponses.
De retour sur le plateau du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, vos questions, nos réponses, puisque vous posez vos questions et nous vous y répondons. Ils sont notaires, avocats, experts comptables ou professionnels de l'immobilier pour répondre à toutes vos questions avec notre super producteur qui est avec nous depuis le numéro 1 du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, c'est l'ami Vincent. Comment ça va?
Oui, salut Sylvain, bonjour, ça
va
très
bien. Vincent.
Bonne année.
Toujours
bonne
aussi
année.
Grand Vincent.
Oui.
Voilà. Voilà. Donc Vincent, cette fois-ci nous avons notre super agent immobilier avec Anne Boucaud. Bonjour Anne.
Bonjour
et
Sylvain,
bonne année,
bonjour
Anne.
Vincent, bonjour Christine, et bah bonne année et bonne santé à tout le monde.
Merci d'être avec nous, Anne Boucaud de Boucaud Immobilier. On a une première question, Vincent.
Ouais, avec Irène d'Orléans, elle est propriétaire bailleur. Un couple de locataires signe un contrat de location il y a 6 mois. Aujourd'hui, ils se séparent. Chacun avertit de son côté, Irène, qu'il veut rester locataire du logement. Le hic, c'est que Madame n'a pas les revenus nécessaires. Et puis, monsieur est en délicatesse avec la justice. Irène, elle se demande, est-ce qu'elle peut résilier le bail à ce moment-là? Est-ce qu'elle le peut?
Alors, la réponse, Vincent, est non. Déjà, le bailleur ne peut pas résilier le bail de manière unilatérale. Et c'est assez encadré par la loi. Il y a 3 cas où le bailleur peut le faire. C'est donc en location vide, hein, reprendre pour y habiter ou pour loger un proche, pour vendre le logement et en cas de manquement grave du locataire, type tapage nocturne ou impayé. Donc ça, c'est la première des choses. Ce qu'on peut dire par rapport quand on est colocataire du bail, c'est que c'est un engagement commun. Donc il est très important que les locataires puissent se mettre d'accord sur donc un consensus pour savoir qui reste dans le logement, pour pouvoir y faire un avenant au bail, pour que ce soit fluide et clair pour le propriétaire. En tout cas, si on reprend le cas de madame, si elle n'a pas les revenus nécessaires, elle peut peut-être accéder à une garantie visale ou alors à un garant personne physique. Et si jamais monsieur, lui, souhaitait rester locataire de ce logement, ce qu'il faut voir, c'est que il peut, le fait pardon qu'il soit en manquement avec la justice est un acte discriminatoire, donc le propriétaire en aucun cas ne peut évoquer ça pour ne pas l'avoir comme locataire. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus.
Donc il se débrouille entre eux, mais en tout cas le bail peut continuer de courir.
Tout à fait.
Mais l'un des deux, dans le couple, ils doivent se mettre d'accord pour qui va rester. Parce
c'est
que
ça.
Là, ce qui est difficile pour Irène, c'est que chacun lui a dit « moi, je veux garder le logement ».
Exactement. Donc, il faut qu'ils trouvent un consensus ou alors qu'il y ait une décision de justice. Mais là, c'est d'autres délais. En tout cas, s'ils doivent trouver un consensus entre les locataires pour justement savoir qui doit rester dans le logement. Et du coup, le propriétaire, dans ce cas-là, devra faire avenant
mais
au bail.
Sur quelle base il choisit, par exemple, si madame a un enfant en bas âge, par exemple, ce genre de choses?
Non, c'est à eux, entre eux, de trouver un accord, tout bonnement.
En fait, le propriétaire, il ne choisit pas, c'est pas lui qui choisit.
Exactement, il ne choisit pas, et puis il ne doit pas favoriser, comme on le disait, avec les critères discriminatoires. Donc si l'époux, par exemple, lui, est en délicatesse avec la justice, ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. C'est à eux de trouver un consensus. Et s'il n'y a pas d'accord, en revanche, il reste co-solidaire du bail et la justice, après, tranche pour savoir qui reste.
C'est au couple d'aller voir la justice pour les départager, en fait.
Idéalement, trouver un accord entre
oui,
eux.
Bien
et
sûr.
Ils peuvent se faire aider d'un conciliateur ou peut-être de quelqu'un de droit à ce sujet. Mais après, s'il n'y a pas d'accord trouvé, ils restent donc co-titulaires du bail. Donc, ils doivent payer le loyer comme il se doit.
Oui, Irène continue à percevoir
voilà,
ses loyers. Elle.
Exactement.
D'accord. Une autre question pour vous, Anne Boucaud, c'est Rémi qui est à Lyon. Il souhaite louer, il se demande si la garantie locative visale, elle est plus sécurisante qu'un garant personne physique.
C'est intéressant comme question parce qu'elle revient hyper souvent.
Ouais, oui, ouais.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est une question très intéressante. Donc la garantie visale, déjà on peut rappeler ce que c'est. Ouais, la garantie visale, c'est un dispositif mis en place par Action Logement. Donc l'avantage de cette garantie, c'est qu'elle permet à un locataire d'accéder à un logement avec parfois plus de flexibilité qu'une assurance classique au niveau, par exemple, des ressources ou des conditions d'octroi du logement type période d'essai, parce que ça, on le rencontre régulièrement sur les périodes d'essai ou des personnes qui ne sont pas CDIsées. Donc, la garantie visale permet aux locataires d'accéder plus facilement à un logement. Pour un propriétaire, c'est un plus parce que elle est sécurisante, parce que c'est une fiabilité institutionnelle aussi. Donc, ça, c'est quand même un atout. Le moins de la garantie visale, c'est le plafond. C'est-à-dire que la garantie visale, elle est valable pendant 36 mois, donc la première durée du bail, et elle ne couvre pas les dégradations éventuelles des locataires. Donc, c'est vraiment les limites de la garantie visale. Un garant physique, lui, peut avoir d'autres... Ça présente d'autres atouts pour un propriétaire. Ça peut présenter effectivement le côté aussi échange quand on contacte directement un garant physique, par exemple, quand il y a un sujet sur le premier loyer qui n'est pas payé. Ça permet d'accéder rapidement à un contact et également de couvrir aussi les dégradations éventuelles du logement.
Mais la garantie de loyer payé, enfin la garantie visuelle, est-ce que ça s'apparente à une garantie de loyer payé?
Alors, dans l'idée, oui.
Est-ce que si je prends plus une garantie de loyer payé, ça fait quoi? Ça fait double effet?
Alors oui, ça fait double emploi. Ce qui peut être fait dans le cas d'une garantie visale, c'est prendre la garantie visale et qu'un propriétaire puisse être couvert par une autre assurance.
Sur les dégradations.
Pour pouvoir pallier aux dégradations. En revanche, sur le côté, recouvrement des loyers, la visale couvre, attention, sur 36 mois. Donc, c'est pour ça que ça a aussi ses limites.
Oui, et s'il y a des dégradations. En général, avec une procédure d'expulsion, ça prend 24 mois. Entre 18 et 24
mois. Oui, on va dire que souvent, ce qu'on entend, c'est plutôt...
Parce que souvent, dans les garanties de loyer payées qu'on achète chez un assureur, il y a toujours un pavé sur les actes de vandalisme ou de dégradation.
Oui.
Et c'est pas le cas de Visale. Parce que Visale, c'est gratuit, pour le rappeler.
Visale, c'est complètement gratuit pour un propriétaire.
Les gens de moins de 30 ans, non? Elle a été élargie.
Alors, elle a été élargie, justement, parce que pendant un moment, c'était
réservé aux moins de 30 ans, il me semble.
Tout à fait. Et maintenant, il y a des cas où.
Pour les ménages très modestes, peut-être.
Visale, peu importe. Il n'y a plus de conditions d'âge.
D'accord.
Et alors, je crois que ça dépend des zones géographiques, mais en tout cas, ça s'est élargi. Donc, on a de plus en plus de locataires qui accèdent justement à cette... et qui le mettent en avant, parce que pour un propriétaire, ça évite de souscrire une garantie loyer impayé. Donc, modulo, par contre, cette histoire de dégradation immobilière.
C'est sûr, pour un premier contrat de location, un premier bail de location, pour un jeune, un activité, c'est idéal, quoi.
Ah c'est idéal, bien
sûr.
On lui
demander aux parents de se porter caution. Mmh. Bah, déjà que c'est une tannée pour trouver un logement.
Oui, il y a également la garantie Locapass qui permet aux locataires, justement, par rapport au dépôt de garantie, de pouvoir être aidés sur l'apport en dépôt de garantie, donc qui est aussi sécurisant pour un propriétaire bailleur.
Merci beaucoup, Anne Boucaud.
Merci, on vous retrouve au Plessis Robinson, Boucaud Immobilier.
Si on enregistre bien évidemment tout de suite l'information. Si vous allez au Plessis Robinson, on va chez...
Boucaud Immobilier.
Bien sûr. On se retrouve avec le prochain expert.
Vos questions, nos réponses.
Eh bien, rebonjour les amis, seconde partie de vos questions et nos réponses avec l'avocat du droit immobilier le plus connu de France. Il est avec nous sur le plateau, Maître Romain Rossilandi. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. On a des questions, Vincent, des questions toujours un peu compliquées parfois pour les personnes qui nous posent des questions. Je crois que c'est François de Paris qui nous pose une première question.
Oui, c'est François. Il a donc un bien qu'il loue et après un impayé, il s'est retourné vers son locataire. Il a appris en fait que sa locataire était décédée récemment. Il a trouvé le notaire en charge de la succession. Rien ne se passe depuis un mois. Comment il peut récupérer cette somme et quelles sont les suites, Romain?
Déjà, il a pas mal de chances de savoir qu'il y a une succession et qu'il y a un notaire. Parce que parfois, le bailleur n'est même pas informé. C'est souvent par le hasard qu'il apprend qu'il y a le loyer qui tombe pas, il se renseigne, il sait pas, et il sait pas qui sont les héritiers. Donc là, on sait qu'a priori, il y a des héritiers, qu'il y a donc un notaire qui a été désigné pour liquider la succession. Et donc, la dette locative fait bien partie, évidemment, des dettes des héritiers. Ça aurait pu être différent si les héritiers refusent la succession. C'est tout à fait fréquent. Et donc là, si c'est le cas, effectivement, il n'y a pas d'héritier.
Donc, pas payé.
On n'est pas payé. Et c'est très compliqué, j'ai déjà eu le cas, pour les bailleurs, pour récupérer le logement. parce qu'on ne peut pas aller récupérer comme ça, changer les serrures et s'installer, c'est impossible. Donc quand il n'y a pas d'héritier désigné, il y a des procédures même particulières qu'on peut faire, on peut saisir le président du tribunal judiciaire, pour, c'est ce qu'on appelle les procédures des successions vacantes, faire désigner un curateur qui va représenter la succession, et simplement après plusieurs mois, on peut essayer de récupérer les clés.
Ça prend
des mois et des mois. Donc c'est pour ça que votre auditeur, il a de la chance d'avoir eu l'information assez rapidement. Si je comprends bien, il n'y a qu'un mois d'arriéré de loyer. Ouais. Donc là, il faut se retourner contre les héritiers. Si les héritiers ne payent pas, parce qu'il faut récupérer les clés aussi. Ça, c'est pas toujours évident. Si les héritiers ne payent pas, il y a la procédure classique qu'on fait devant le tribunal.
Il peut pas récupérer son bien comme ça.
Ah non.
Il faut qu'il ait quoi? Un titre de justice?
Alors, il faut soit une décision du juge, évidemment, ça permet évidemment. Mais pour l'avoir, il faut au moins 6 ou 8 mois minimum de procédure pour l'obtenir. Et encore, ça dépend de l'endroit où on se situe. Sinon, il y a quand même des procédures. Quand il y a un abandon de logement, ça c'est pareil aussi pour un locataire qui part à la cloche de bois, qui abandonne le logement. Le décès, c'est pareil. Il y a des procédures, la requête bétail, c'est un peu technique. On peut, par un huissier de justice, sommer l'occupant, donc le locataire ou, en l'occurrence là, les héritiers, de justifier qu'ils occupent le logement. Après un mois, ils n'ont pas répondu. On a une possibilité de faire une reprise du logement sans passer par le préfet et le concours de la force publique dont on parle souvent ici.
C'est une affaire de plusieurs mois.
Mais c'est une affaire de plusieurs mois. Donc c'est vrai que on ne sait pas ça. Parce que il y a un autre point aussi. C'est pour ça que la question est intéressante. Il se peut aussi qu'il y a un des héritiers qui demande le transfert du bail à son profit. Et ça, la loi de 89 est assez précise. Ceux qui peuvent bénéficier du transfert du bail sont ceux qui justifient, alors les ascendants, les descendants, ou les partenaires de Pax, par exemple, les concubins notoires aussi, qui justifient avoir habité dans les lieux au moins un an avant le décès. Là aussi, contentieux abondant.
Comment on le prouve,
c'est compliqué. Alors j'ai des dossiers, moi notamment pour les logements sociaux, vous imaginez bien, que souvent les enfants, tout d'un coup, ils apparaissent. Ah ben moi j'habitais dans les lieux depuis un an. Donc il faut fournir des éléments, c'est pas toujours facile, des factures d'électricité, par exemple à votre nom, etc., des témoignages des voisins. Oui. Mais si vous démontrez que un an avant le décès, vous occupiez effectivement les lieux avec le locataire décédé,
le transfert du bail
pouvez bénéficier
automatiquement.
Ces deux droits. Alors, c'est pas automatique, parce que, si, la loi le prévoit normalement, mais souvent, il faut faire des procédures. Et en général, ce qui se passe, c'est que le bailleur a lancé une procédure d'expulsion, et là, le locataire dit, mais attendez, moi, j'étais là dans les lieux, je dois le démontrer, etc. Donc, beaucoup de contentieux là-dessus. On n'en parle pas souvent, mais il y a beaucoup, beaucoup de contentieux.
C'est un vrai sujet.
Il faut pouvoir payer le loyer aussi. Enfin, il faut que l'enfant, par exemple, au-delà du fait d'avoir habité pendant un an, enfin, qu'il puisse payer qu'il ait un salaire qui représente trois fois le loyer, enfin,
Le bailleur, ça, normalement, il a pas voix au chapitre là-dessus. S'il n'y a pas les mêmes garanties de solvabilité. En revanche, pour les logements sociaux dont je parlais, effectivement.
Les plafonds de ressources.
Évidemment, il faut que l'enfant puisse, effectivement, remplir les conditions pour être éligible. La solvabilité rentre pas en ligne de compte.
C'est ça qu'on appelle le droit de suite, il me semble, dans le.
Oui, alors, c'est dans la loi de 89, qui est d'ordre public. C'est l'article 14 ou 15, je ne sais plus. Mais quoi qu'il arrive, le maintien dans les lieux, voilà, effectivement, est possible que si vous justifiez avoir vécu un an avant le décès.
Question.
Trois ans avant, ça sert à rien.
Imaginons que le bien, il soit garanti en garantie de loyer impayé. Est-ce que l'assureur va payer les loyers impayés alors que le locataire, lui, est décédé et que ça dure 2-3 mois, par exemple?
Alors, c'est une bonne question. Je pense que ça dépend des contrats. Probablement que le décès, je suis pas fou, les assureurs sont pas fous.
Ils l'ont intégré.
Le décès du locataire, à mon avis, doit être une exclusion, probablement.
Alors, c'est soit une exclusion, soit une inclusion.
Ou alors, il y a une inclusion, mais il y a une garantie à payer en plus.
Je comprends, oui, certainement. Mais ça vaut le coup de... Les amis, on va vérifier. C'est important comme information.
Une autre question pour vous, Romain Rossilandi. Virginie est dans la Somme. Elle souhaite louer un bien immobilier. Elle a un logement qui est classé G et elle a compris qu'elle ne pourrait plus le louer. Elle est très inquiète. Qu'est-ce qui se passe pour Virginie?
Question d'actualité, là, puisque depuis le 1er janvier, donc cette année, hein, 1er janvier 2025, les logements classés G sont considérés comme des passoires énergétiques et donc sont interdits à la location.
Donc c'est le cas pour Virginie.
Elle en théorie. Elle n'a pas le droit de louer.
De le mettre en location.
Elle a pas le droit de le mettre en location. Et attention, cette obligation s'applique aussi aux baux en cours lors de leur prochaine reconduction. Donc ça va se généraliser d'ici 3 ans. Je crois qu'il y a 600 000 logements qui sont concernés par cette interdiction de louer. Alors pourquoi je dis en théorie? Parce que en fait, on considère que le bailleur, en fait, maintenant cette obligation de faire ses travaux d'économie d'énergie, ça fait partie de la décence, ou l'obligation de donner un logement décent à son locataire. Comme l'est, par exemple, un logement qui fait moins de 9 mètres carrés. C'est exactement la même règle. Pourtant, il y a quand même des gens qui louent des logements de moins de 9 mètres carrés. Donc, ça sera la même chose. C'est-à-dire que si les locataires ne saisissent pas le tribunal pour se plaindre, il se passera rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une amende qui tombe automatiquement.
En fait, quelqu'un qui va signer un bail en étiquette G, un locataire, le locataire étant d'ailleurs très heureux de trouver un logement, ce que je peux vous dire que ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut alerter.
Pour trouver un logement aujourd'hui.
Aujourd'hui. Mais on a un vrai sujet.
Bien sûr.
C'est-à-dire que les gens sont tellement désespérés à la rue que même un étiquette G, même un étiquette Z, il le prendrait.
Mais c'est pas grave, il va mettre 4 pulls et puis voilà.
Absolument, il le prendrait parce qu'il y a un vrai désespoir. Néanmoins, le cas, c'est que si jamais il le fait et que le locataire, par exemple, devait faire un recours.
Alors, il y a des risques, évidemment, par contre, pour le propriétaire. Effectivement, si le locataire fait rien, il peut rien se passer.
Tu as
tout à raison. En revanche, un locataire bien informé qui va faire un recours, là, c'est une indécence du logement, c'est quasiment automatique. Il peut obtenir la suspension du loyer, la diminution du loyer, la condamnation du bailleur à faire les travaux nécessaires pour revenir à une étiquette normale.
Du loyer, carrément.
Sous astreinte financière, bien sûr. Le pouvoir du juge sont considérables. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a plein de cas où le propriétaire, même avec une bonne volonté, ne peut pas faire les travaux.
Parce qu'il n'a pas les moyens.
Alors, soit parce qu'il n'a pas les moyens, soit parce que tout simplement c'est techniquement impossible, parce que la copropriété, par exemple, je donne cet exemple-là souvent, exemple, moi j'ai un client à qui c'est arrivé, il a fait tout ce qu'il fallait chez lui, il a changé les volets, il a changé les fenêtres, il a changé le ballon d'eau chaude, enfin bon, il a fait le maximum, et on lui dit maintenant, vous restez mal classé, il faudrait que la copropriété vote le changement de la chaudière, qui date de 1995, et évidemment, les copropriétaires ne veulent pas voter. Donc lui, ce bailleur, il est de bonne foi, il a fait ce qu'il fallait, il peut pas faire plus. Et donc, effectivement, ça pose un problème. Donc je pense que le juge va pouvoir apprécier. Il y a même une proposition de loi là qui va être discutée.
Marchive et Chanise, effectivement.
Voilà, courant, je crois, dans quelques jours.
Oui, pour prouver janvier. Que je vais faire les travaux.
Mais c'est une exception. Alors après, il faut faire confiance au juge dans ces cas-là, effectivement. Mais dès lors qu'on dit que c'est une obligation, le bailleur ne respecte pas l'obligation de délivrance, il y a un problème. Donc il y aura un contentieux, tant mieux pour les avocats, moi je suis ravi, ça va faire des contentieux. Mais quelque part, il faut que le législateur, à mon avis, réfléchisse. Parce qu'il y a quand même des situations qui sont
très compliquées. Il aurait déjà d'ailleurs dû réfléchir, ne serait-ce qu'en
amont, on est bien d'accord.
Au lieu d'imposer une contrainte de calendrier comme celle-ci. Je dis rien.
Pour finir, il faut quand même qu'elle fasse les travaux, évidemment, dans la mesure du possible, qu'elle les fasse le plus rapidement possible. Et j'ajoute aussi, il y a un point moi qui me choque, c'est que pour tous les contrats en cours à qui cette obligation va s'appliquer dans quelques semaines ou quelques mois, le bailleur ne pourra pas donner congé à son locataire, c'est pas un motif de congé. Le seul motif de congé, c'est la reprise pour habiter ou la vente. Donc il faudra que le bailleur, s'il veut faire les travaux, reloge à ses frais le locataire pendant la durée des travaux.
Merci beaucoup Romain Rossi-Landi, notre avocat dans le grand rendez-vous de l'immobilier. On vous retrouve sur rossi-landi-avocat.fr sur les moteurs de recherche. On vous retrouve
absolument. Très facilement. Le bon réflexe, c'est toujours d'aller consulter un avocat. Vous êtes d'accord, hein?
Oui.
Merci beaucoup. Troisième et dernière partie avec vos questions et nos réponses. Nous allons recevoir dans quelques instants Nathalie Cousigou-Suas, notre super notaire, qui va répondre également à toutes vos questions. On se retrouve tout de suite après ça.
La grande interview.
Eh bien voilà, vous nous retrouvez dans votre numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. Nous sommes en janvier 2025, on est très heureux d'être avec vous, on vous souhaite une très très belle année. Deuxième partie de notre grande interview avec notre témoin du jour, Loïc Quentin. Merci d'être avec nous, d'être resté sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM. On va parler maintenant avec Christine du marché locatif. Depuis 2 ans maintenant, on a observé, on va dire, je vais rester... rétrécissement, quasiment divisé par deux, du marché de la location, avec des ménages qui sont quasiment condamnés, on peut le dire, une assignation à résidence, à rester locataire, parce que problématique de rotation, hein, vous connaissez le système, les gens quittent leur location pour arriver à la primo-accession ou accéder à la propriété plébiscitée par 87% des Français. Je précise, donc ils sont très attachés au droit de propriété, et pourtant on a une vraie, vraie galère en matière de location. Christine, je crois que c'est un vrai sujet. Hein.
Oui, et là encore, le Premier ministre, toujours lors de sa déclaration de politique générale mi-janvier, a fait part de sa volonté de relancer l'investissement locatif. Mais alors, comme pour l'accession à la propriété, il a été encore moins précis, il n'a donné aucune solution concrète. Or, pour vous, Loïc Quentin, le traitement du marché de l'investissement locatif relève de l'urgence aujourd'hui. Pourquoi ?
Plus que de l'urgence, je crois que c'est quelque chose qu'on a dû engager déjà il y a au moins 2-3 ans. La disparition du Pinel, déjà. On prévoit la disparition d'un dispositif qui permet d'alimenter le marché du neuf depuis 40 ans.
Dispositif d'investissement locatif.
D'investissement et réduction d'impôt sur l'investissement locatif en neuf. depuis 40 ans et on ne prévoit rien quand on le supprime. Déjà, on va avoir une grande difficulté en 2025, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup moins, c'était 60 à 80 000 logements qui rentraient sur le parc locatif. Deuxièmement, oui, il y a la rotation du parc, on reste locataire, on n'achète pas, donc il y a une forme effectivement d'embouteillage à la sortie à une nouvelle offre. Troisièmement, il y a bien évidemment l'immobilier qui avait été taxé, soumis notamment et maltraité aux premières années du septennat d'Emmanuel Macron, avec notamment l'impôt sur la fortune immobilière. On n'a pas les produits financiers bénéficient d'une flat tax. On est exposé sans arrêt à une augmentation de la fiscalité, augmentation de la taxe foncière jusqu'à 80% dans certaines villes. Donc finalement,
encadrement des loyers,
le permis loué. Et les obligations de rénovation énergétique sur le logement G, sur le logement F. On a une politique complètement décousue et qui ne prend pas conscience de l'urgence à réagir et de trouver, d'envoyer des signaux positifs et de sécurisation afin de restaurer la confiance des investisseurs et des propriétaires bailleurs. Là, on va dans le mur. Moi, je l'avais dit, 2023 difficile, 2024 a été compliqué. Mais 2025 sera encore plus dur. Et c'est vrai qu'on dit souvent cette statistique, je crois, d'Opinionnois qui disait que 37% des étudiants renonçaient à faire des études parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. C'est une catastrophe de voir effectivement cette offre locative dans ce pays. Et en plus de cela, moi je rajouterais que nous avons dans nos cabinets à la FNIM, nous constatons de moins en moins de Français souhaitant faire un placement immobilier. Et ça, c'est très inquiétant.
C'est une chute de 30% des mandats de gestion locative, je crois que la FNIM a observé sur un an. Hein, c'est ça.
Et encore, alors, c'est important ce que vous dites, parce que c'est 30% des mandats de gestion pour la location, mais également les propriétaires qui louent eux-mêmes.
En direct, absolument.
En direct, qui ont vu leur baisse. On prenait tout à l'heure, on en a parlé en début d'émission, on avait des baisses de l'ordre de 49% sur les moteurs de recherche. Ouais. En termes de noms, c'est absolument
Sylvain, fou. C'est très important. La profession ne détient plus que 35% des parts de marché. 65% est non intermédiaire, se permet, je dirais, toutes les largesses de propriétaires qui s'exonèrent de respect des règles de droit. Nous, en zone tendue, c'est la moitié du parc français, on respecte l'encadrement soumis à l'IRL. Quand je vois des enquêtes,
indice comme de référence des loyers,
la publiée, je vous l'ai cité, Se Loger, Les Échos, en disant que les loyers augmentaient de 7% alors que l'IRL est plafonné à presque deux fois moins, je me dis, que se passe-t-il dans ce pays? Il va falloir absolument faire en sorte que les lois soient rigoureusement appliquées, vérifiées, et non pas uniquement à destination des professionnels, mais de ceux, effectivement, qui s'exonèrent. Voilà. Donc là, on a une espèce de marché gris. Mmh. C'est comme le diagnostic performance énergétique. Vous assistez à quelqu'un qui est interviewé dans la rue, il dit, mais moi, de toute façon, j'ai 500 demandes, je louerai, même s'il est léger.
Alors, justement.
On y vient.
Merci, vous me permettez de faire la transition. Vous avez raison quand vous le dites, parce que je rappelle juste comme ça, vous avez parlé de IRL, indice de réduction des loyers, des loyers. Les amis, vous savez, quand vous mettez votre bien en gestion avec un professionnel, moi ça m'est arrivé aussi également, c'est pour parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, que je connais pas bien le métier et que je préfère le faire passer par un professionnel. Mais il y a plus de pratiquement 70% d'entre vous qui le font directement et qui ne sont pas contrôlés, qui n'ont pas de caisse de garantie, qui n'ont pas tous les contrôles qu'on vous assène. Et surtout, vous ne prendriez jamais le risque, vous, Loïc Quentin, de déroger à cette règle. Alors justement, au 1er janvier 2025, je sais qu'on vous a posé 500 fois la question, c'est la 501e, on a l'interdiction de mise en location des passoires thermiques en étiquette G au 1er janvier. Ça y est, on est dans le moratoire. C'est au 1er janvier 2025. On sait, je voudrais vous poser, combien il y a de logements en étiquette G selon vos statistiques, parce qu'il paraît que ça représente un chiffre très important. Et finalement, si on prend ce que vous dites tout à l'heure, que risquent les propriétaires directement s'ils continuent à louer des appartements en étiquette G, alors précisément qu'on a des gens tellement désespérés que même en étiquette Z, ils le loueraient?
Alors, vous avez raison. Alors, aujourd'hui, on recense, selon l'ADEME, 577 000 logements classés G, aujourd'hui, mais qui relève d'une extrapolation faite à partir des DPE déjà délivrés.
Donc, c'est dans le parc locatif privé.
Oui, hein, c'est une extrapolation. C'est-à-dire que nous, on estime qu'il y a un peu plus que cela. Sur 5 millions de DPE délivrés, on fait l'extrapolation des G, notamment en copropriété, en monopropriété. Oui.
Ce chiffre est juste?
Depuis deux ans, nous ne cessons de marteler, nous demandons aux législateurs qui ne les écoutent pas, qui ne retient et qui ne relève même pas. On a demandé que l'indécence énergétique, c'est-à-dire que finalement, au 1er janvier 2025, les logements classés G, ne soient frappés d'indécence que les logements classé G qui soit loué à compter du 1er janvier
2025. Les nouveaux baux à compter
de janvier. La rédaction de la loi climat résilience, qui est une loi extrêmement mal écrite, qui n'a pas fait l'objet de l'étude d'impact, prévoit que sont indécents les logements loués au 1er janvier. Alors, ce qui expose tous les propriétaires de logements classés G à notamment à cette notion d'indécence. Mais beaucoup d'entre eux ne le savent pas, parce qu'ils n'ont pas refait de DPE. Certains ont loué il y a 10 ans un DPE ancienne génération qui n'est pas le reflet de ce que l'on voit aujourd'hui. Et certains, bien évidemment, vont être au fond, on demande un nouveau DPE, constate que le logement est classé G. Comme il est classé G, bien le locataire, puisque son logement est loué au 1er janvier, le locataire, lui, peut saisir le juge judiciaire, il fait un recours, il met une mise en demeure au propriétaire de faire les travaux ou de baisser le prix du loyer. Il saisit le juge judiciaire en matière d'indécence prend toujours la même décision. Il va sanctionner le propriétaire, le condamner à faire les travaux et réduire en tout ou partie le montant du loyer. Donc qu'est-ce qui se passe? On arrive finalement à une période où beaucoup de propriétaires nous demandent qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, vous avez deux solutions. Ou vous faites les travaux, ou vous arbitrez votre patrimoine. Comment on fait les travaux? Si on est en condition de le faire, si on peut le faire, si on a les moyens.
40 000 euros, selon l'estimation, c'est la moyenne.
C'est que la moyenne. Vous avez des maisons, par exemple, qui valent 150 000 euros. Je voyais le cas récemment d'un contribuable.
Oui, il y a 60 000 euros de travaux.
Et il y a 120 000 euros de travaux. Non, j'ai une copropriété, moi, où il y a 260 000 euros de travaux. Ils sont deux copropriétaires. C'est un petit immeuble vétus. Et on n'y arrivera pas. Donc, finalement, ce sont des objectifs qui sont... Donc, il va falloir un moment ou un autre composer avec ce dispositif. Là, nous sommes dans le classement G, mais prochainement, c'est les F qui arrivent en 1er janvier 2028. Alors, vous entendrez qu'il y a une loi qui est prévue à l'Assemblée nationale qui sera débattue le 28 janvier prochain, mais cette loi ne vise qu'à reporter et réécrire que l'indécence ne s'applique qu'au moment du renouvellement du bail de 3 ans, mais des baux renouvelés, il y en a tous les mois qui s'écoulent.
Oui, ce sont les députés Marchiv
oui,
et Chaniz.
Bastien Marchiv et Inaki et Chaniz, effectivement, qui portent cette proposition de loi qui arrive tard à cause de la censure du gouvernement Barnier. Rien ne va dans cette proposition de loi. Parce qu'en fait, elle est censée apporter des dérogations aux logements G situés en copropriété. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes là-dedans? Qu'est-ce que vous lui reprochez concrètement?
Non, il y a deux aspects dans cette loi et Chaniz Marchiv. D'abord, je ferai une remarque. Je voudrais tacler quand même le député de Chaniz, c'est que quand on porte une proposition de loi comme celle-ci, on évite de voter la motion de censure à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc, je crois que c'est important, c'est une question, on est républicain, on ne l'est pas. Ça, c'est très important.
Ce que vous dites, il a voté parce que le bloc avait donné l'instruction de voter. Quoi. Voilà,
il appartient au Parti Socialiste, le Parti Socialiste n'avait pas voté, mais lui, il a voté.
Oui. Le parti. Oui. Vous parlez de la motion de censure première ou la.
Semaine dernière.
Ah oui, tout à fait.
C'est le gouvernement.
Oui. Voilà. Donc. Il a voté contre l'avis de son parti. Voilà. Donc cette loi, elle va permettre d'éviter l'indécence énergétique, mais notamment à compter du renouvellement du bail. Mais tous les baux qui arrivent en renouvellement, là, dans les 3 ans, sont confrontés au même problème de réalisation de travaux. Voilà pourquoi on avait dit que les baux conclus à compter du 1er janvier et éviter tous les renouvellements de baux. Mais ils seront quand même tous concernés par l'indécence. Deuxièmement, il y a un aménagement sur les copropriétés qui précise que l'indécence est suspendue dehors que le syndicat des copropriétaires a confié une mission de maîtrise d'œuvre à un professionnel décidant de l'exécution de travaux dans un délai raisonnable, cher Sylvain.
Qui n'est pas précisé, le délai raisonnable.
On ne sait pas ce que c'est qu'un délai raisonnable.
De toute façon, avec les politiques, on est plutôt dans le flou artistique. On va essayer de finir sur peut-être une bonne note. Parce que finalement, laisser les professionnels travailler, eux ont déjà les solutions. On avait cru d'ailleurs comprendre que, Valérie Létard l'a annoncé, les travaux sur le fameux statut du bailleur privé. On va essayer d'être le plus positif possible. Ça va pas être évident en ce qui me concerne. Est-ce que vous y croyez?
Elle a parlé d'une mission qu'elle va lancer.
Oui, une mission. Énième mission, énième commission, une commission effectivement. Vous avez raison, une commission. Elle a chargé quelqu'un du Parlement pour justement essayer de réfléchir sur la question. Alors que tout est fait, parce que les études d'impact ont été faites, les éléments. J'aimerais avoir pour conclure cette grand entretien. Et merci à vous, Loïc Cantien, d'y avoir participé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ce point-là et sur quoi? Finalement, on peut redonner envie aux Français de croire encore à l'immobilier.
Alors, je crois que le statut du bailleur privé, on entend parler partout. Même Emmanuel Macron en a parlé, donc ce n'est pas nouveau. Et c'est une proposition de la FNIM qui remonte à 14 ans. Donc on connaît bien cette question-là, donc c'est pas uniquement le statut du bailleur privé, je crois que c'est la conjonction de deux choses, c'est à la fois finalement diminuer les contraintes qui pèsent sur les propriétaires bailleurs, améliorer la fiscalité de la détention immobilière et une offre locative pour leur permettre d'avoir envie d'investir ce secteur. Je crois que, mais là, les discussions vont être quand même assez âpres. On est dans un moment où nous n'avons plus les moyens d'une politique qui serait nécessaire. Je crois que aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que plus ça va, plus il y a de réglementations qui pèsent sur le propriétaire bailleur. Et c'est à ce titre-là, restaurer une confiance passe aussi par un aménagement à la fois de la rentabilité, de la fiscalité et à la fois des règles qui encourent et qui encadrent le secteur locatif.
Concrètement, ce statut du bailleur privé, longtemps vous avez parlé d'un, ça pourrait prendre la forme d'un amortissement, c'est ça? C'est
bah, amortissement haut. Je vais vous dire un exemple très simple.
Oui.
Vous savez, en 1985, on avait les propriétaires bailleurs disposaient encore de 35% d'abattement sur leur revenu locatif avant déduction des autres postes de dépenses. Et, cet abattement est passé à 35, 25, 20, 18, 12, 10, 8, 6, et aujourd'hui c'est 20 euros par logement. Donc, si on veut améliorer la fiscalité, c'est pas forcément d'amortir un bien, tous les ans amortir 3% de la valeur de son bien en déduction de ses loyers, qu'on fasse une déduction forfaitaire sur la feuille de revenus au titre de l'amortissement, du calcul des revenus, et ça, Bercy le sait faire, la ligne, elle existe, il suffit uniquement de le voter dans un budget.
Et de la réactiver telle qu'elle était d'ailleurs à une certaine époque.
Et on aura fait un grand bout de chemin.
Merci beaucoup, infiniment, Louis Quentin. Je rappelle que vous êtes le président de la FNAIM, pétri de bon sens, parce que au contact des Français tous les jours et de leurs problématiques, on serait bien inspiré de vous laisser les commandes pour pouvoir retravailler ces politiques du logement. Voilà, et on va bientôt se quitter, on se retrouve tout de suite après ça.
Vos questions, nos réponses.
Eh bien, rebonjour, vous êtes toujours dans le grand rendez-vous de l'immobilier, on est ravis d'être avec vous. Troisième et dernière partie de vos questions, nos réponses. Je rappelle le principe, vous avez des questions techniques, immobilières, qui s'adressent à des avocats ou à des experts comptables ou avec des notaires ou des agents immobiliers. Nos experts sont là pour vous y répondre et nous avons de la chance puisque nous avons la notaire qu'il nous faut ici sur le plateau. C'est Nathalie Cousigou-Suas. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Merci d'être
aussi,
et bonne
j'ai
année.
J'ai la chance d'être là. Bonne année. Bonne année à tous.
Merci d'être avec nous. L'ami Vincent, on a une question sur les plus-values, je crois, me semble-t-il, avec Nathalie qui nous pose cette question.
Non, Nathalie, elle est face à vous, Sylvain. C'est José.
Mais ça peut être aussi Nathalie qui répond à une Nathalie.
Oui, pardon, excusez-moi. Oui, pardon,
Nathalie, peut-être. C'est Josiane qui est à Brest, là, qui nous pose la question.
Ah, c'est une Brestoise.
Oui, une Brestoise. Elle va payer 22 000 euros de plus-value sur la vente de sa résidence secondaire. Elle se demandait sur quel article de loi elle peut se fonder pour déduire de cette somme les travaux qu'elle a réalisés elle-même, pas par un professionnel, mais qu'elle a réalisés elle-même dans cette maison. Comment elle fait ?
À notre pauvre auditrice brestoise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle va avoir du mal à déduire ses travaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'il faut indiquer, c'est qu'en dehors de la résidence principale, lorsque vous vendez un bien qui vous appartient depuis moins de 30 ans, eh bien, il y a éventuellement un impôt de plus-value à faire sur le profit que vous retirez de la vente par rapport au prix d'acquisition. Donc, la plus-value, clairement, qu'est-ce que c'est ? Je le vends 100, je l'ai acheté 80, la plus-value, c'est 20. Mmh. Sauf qu'il y a effectivement un système de dégrèvement et de revalorisation selon la durée de détention, puisqu'on a vu au bout de 30 ans, ça s'efface. D'accord ? Donc l'idée, c'est qu'au prix d'achat, on puisse gonfler le prix d'achat pour diminuer le gap par rapport, en fait, au repris de vente. Donc qu'est-ce que peut faire notre Brestoise ? Eh bien, en fait, c'est l'article... Quatrièmement, grand 2 du 150 VB du Code général des impôts. Quatrièmement, grand 2 de l'article 150 VB du Code général des impôts, qui dit qu'en fait, sont prises en compte uniquement pour modifier, donc pour gonfler le prix d'acquisition, que les factures d'entrepreneurs d'une entreprise. C'est-à-dire que tous les travaux qu'a fait notre auditrice, si c'est elle qui l'a fait ou qui les a faites par un tiers, ça ne fonctionnera pas. Même, tenez-vous bien, si elle a été achetée des matériaux avec ses propres deniers et qu'elle a confié les factures de matériaux, Christine, qu'elle a confié effectivement la rénovation de la maison à une entreprise, et ben on pourra déduire uniquement le coût de la main-d'œuvre et non pas des coûts des matériaux. Donc uniquement facture d'entreprise. Pour autant, est-ce entièrement perdu? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un forfait de 15%. Si vous détenez le bien depuis plus de 5 ans, ce fameux délai de 5 ans, bah vous pouvez rajouter au prix d'achat 15% du prix d'achat.
D'accord.
Donc, elle a que ça à faire. C'est tout, mais c'est pour la plupart du temps, cher Vincent, moi, je m'aperçois quand mes clients m'apportent des factures, c'est pas idiot parce que souvent, c'est même supérieur aux travaux qu'ont pu faire nos clients. Mais là, effectivement, s'il y a une grosse rénovation, une grosse reconstruction, il est fort à parier que ça sera bien supérieur au forfait de
15%. Si on a 5 ans de détention minimum, c'est automatique de...
C'est automatique. Vous pouvez vous en prévaloir automatiquement, même si vous avez
C'est en pourcentage du bien.
Voilà, c'est-à-dire que vous prenez votre prix d'achat, vous rajoutez 15% au prix d'achat.
4.
Voilà, 15.
Plus la durée de détention augmente, plus le pourcentage augmente.
Non, pas du tout, Christine. Le pourcentage, il est fixé une fois pour toutes, au bout de 5 ans.
D'accord.
En revanche, la plus-value retraitée par date anniversaire de détention. Date anniversaire chez votre notaire d'achat.
15%, Nathalie, est-ce que c'est 15% par rapport au prix où j'ai acheté ou 15% au prix où je vais le vendre?
C'est 15% par rapport au prix d'achat.
D'achat.
Puisqu'en fait, l'idée, c'est de retraiter le prix d'achat par rapport au prix de vente pour minimiser en fait ce gap. Donc, on peut rajouter à ce prix d'achat les frais dits notaire, la commission d'agence, si c'est bien sûr l'acheteur qui l'a payé, et ce fameux forfait de 15% dès lors qu'on le détient depuis plus de 5 ans. Si, bien sûr, ce n'est pas sa résidence principale.
Alors, j'ai acheté 100, je l'ai revendu 140.
Donc, je rajoute.
Je fais 100 plus 15.
Voilà, 115.
On va dire presque 120.
115, vous rajoutez les frais de mutation.
Ah, on peut rajouter.
On rajoute les frais dits de notaire, les frais de mutation, la commission d'agence.
Ah, mais
donc, voyez, là, je l'ai acheté.
Ça réduit bien le gap.
Ça réduit le gap, plus un retraitement. Alors, sachez néanmoins que si notre...
C'est le notaire qui fait tout ça. Hein.
Bien sûr, maintenant, c'est prélevé sur le prix de vente, parce qu'effectivement, comme ça, c'est tout bénéfice pour notre cher trésor public, puisque, effectivement, c'est prélevé à la source, et automatiquement, les contribuables n'ont pas à faire cette déclaration l'année d'avant, c'était le cas. Donc là, c'est prélevé à la source. Notons que si notre auditrice brestoise, elle n'a pas été propriétaire de sa résidence principale depuis... Si elle n'a pas vendu sa résidence principale depuis moins de 4 ans, elle pourrait éventuellement, chez son notaire, à l'occasion de la vente, prendre l'engagement, dans les 2 ans, de racheter une résidence principale. Et comme ça, elle est exonérée de la plus-value au prorata des sommes réinvesties dans son achat de résidence principale. Donc, mais là, effectivement, si notre Brestoise, elle est déjà propriétaire de sa résidence principale, qu'elle ne compte pas vendre ou qu'elle n'a pas vendu il y a moins de 4 ans, plus de 4 ans, là, elle aura ses 22 000 euros de plus-value. Donc, il n'y a guère que le forfait de 15%.
C'est déjà ça.
Eh bien, ça, c'est hyper important parce que c'est prosaïque. Je peux vous dire que ça doit certainement vous parler. On a un problème, je me semble-t-il, de mitoyenneté d'un mur.
Ouais, ça se passe à Grenoble. C'est Marc qui nous écrit sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. Vous pouvez poser aussi vos questions. Son voisin a construit un mur à la limite de nos deux propriétés, nous dit-il. Puis-je l'obliger à crépir la partie du mur qui donne sur mon jardin, car le béton est apparent? On voit bien le problème. Mur qui apparaît, c'est moche. Il y a du béton.
Ah, mais c'est moche.
Qu'est-ce qu'on fait? À qui est le mur? Qui doit faire quoi? C'est
le
un peu la question de Marc.
Au pays de Stendhal.
Côté voisin.
De son côté à notre auditeur.
De son côté, c'est le crépi au pays de Stendhal. Stendhal était de Grenoble. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que la mitoyenneté, rappelons pour nos auditeurs? C'est un mur, en fait, qui appartient en indivision aux deux, puisque la mitoyenneté, c'est un mur qui, effectivement, sépare la limite de deux propriétés qui appartiennent à deux propriétaires différents.
C'est pas forcément un mur.
C'est pas forcément un mur, ça peut être une haie, ça peut être une clôture.
Un grillage, une clôture.
Ça peut être un grillage, tout. Parfaitement. Donc là, effectivement, normalement, le principe de la mitoyenneté, ce n'est pas une servitude. Si vraiment le mur appartient aux deux, normalement, il y a une présomption de mitoyenneté dès lors que le mur est à cheval sur les deux propriétés. Donc là, je m'étonne parce qu'il dit le propriétaire a construit un mur.
Oui.
Donc, est-ce que c'est sur sa limite séparative ou c'est sur la limite des deux? Auquel cas, sinon, ce n'est pas mitoyen. Il faut que ce soit sur la limite.
Oui.
Enfin bref, admettons que ce soit un mur mitoyen.
Ouais.
Eh bien, dans ces cas-là, il y a un arrêt. je vais jouer ma mémoire, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, vous voyez, il a fallu aller jusqu'à l'organe, aller faire des appels et des pourvois, qui a décidé qu'on n'était pas obligé, on ne pouvait pas obliger le copropriétaire, effectivement, à enduire son mur. Ce qu'on doit l'obliger à faire, c'est entretenir, pour pas qu'il se casse la figure, à l'entretenir. Et ce que dit le code civil, c'est que c'est partagé par moitié. S'il est moche, malheureusement, tant pis. Donc, dites-vous bien que, vous savez, la sagesse populaire, elle est toujours de très bons conseils. Un long procès vaut mieux et pire qu'un bon arrangement. C'est-à-dire qu'il faut aller voir son voisin, qu'un mauvais arrangement. Il faut aller voir son voisin, essayer de se concilier, sinon faire une conciliation justice. Mais on ne peut pas obliger son voisin à crépir son mur. Hein, la Cour de cassation en a décidé ainsi. Ça doit être fait, certes, à frais conjoints, par moitié si le mur est mitoyen, hein, mais on ne peut pas l'obliger à le décorer comme on veut.
Et si le mur est dans la propriété du voisin?
Alors là, c'est autre chose, mitoyen.
Il n'est pas mitoyen, est-ce qu'on peut l'obliger?
Zéro pouvoir.
Ben non plus.
Zéro pouvoir, non.
Zéro pouvoir, mais attention au risque de conflit de voisinage.
J'ai un cas, parce que chez moi, en face, dans mon jardin, j'ai deux jardins, entrée.
D'ailleurs, on a des images de chez vous.
Et le salon. J'avais un mur en face de moi qui n'était pas très joli. Et j'ai demandé au voisin si je pouvais mettre une petite haie de bois pour donner une émission de perspective. Mais il fallait quand même le fixer dans le mur. Ça, c'était très, très bien fait. Et dans ces cas-là, je suis d'accord avec vous. Ce qu'il faut faire, les amis, c'est aller voir beau voisin et puis vous arranger avec lui. Parce qu'effectivement. Et puis le voisin dit oui, parce que sympa. Oh, sinon, je lui faisais la misère.
De toute façon, moi, c'est ce qu'on dit clients, c'est toujours bien d'aller se présenter quand
bien
vous
sûr,
arrivez.
Parce que la réponse, c'est qu'il peut avoir le mur de mitoyenneté, il n'est pas obligé de le décorer.
Non plus.
Exactement.
Voilà, c'est tout.
Voilà.
Donc en bonne entente.
Maintenant, si lui, il veut le faire de son côté, il veut crépir de son côté, il peut, du coup.
Bien sûr, tout à fait. Bien sûr, il fait ce qu'il veut sur son mur. Ce qu'il faut, c'est l'entretenir et à frais communs. Ce qu'on pourrait l'obliger à faire c'est des travaux urgents. Mais là encore, il faudrait l'obliger. La contrainte par corps n'existe plus depuis 1848. Donc, il faudrait là encore aller au tribunal. Donc, toujours essayer de trouver une solution.
À l'amiable.
Merci beaucoup, Nathalie Cousigou-Suez. Je rappelle que vous êtes notre experte notaire. J'espère que vous reviendrez très, très vite
sur
notre plateau. En attendant, on vous retrouve sur votre étude qui se trouve à Paris, dans le 5e arrondissement. Merci à vous. Voilà, c'est quasiment la fin de notre 61e numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier. On se retrouve tout de suite pour la conclusion.
Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier.
Eh bien voilà les amis, il est temps de se quitter. Premier numéro du Grand Rendez-vous de l'Immobilier, revu pour vous en 2025. On va se retrouver le mois prochain. Merci Christine pour notre première émission. On va se retrouver le mois prochain également.
Absolument, merci Sylvain, merci à toutes, merci à tous. Et pour le prochain numéro, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à nos experts dans le groupe Facebook, le Club des Proprios.
Voilà, le Club des Proprios, c'est le club Facebook qui a été construit pour vous. Vous connectez avec votre compte Facebook, vous posez la question et on y répondra justement. Voilà, ce sont vos questions et on vous apportera nos réponses. Voilà, le mois prochain dans le nouveau numéro, toujours avec des décryptages de l'actualité. Et Dieu sait qu'il y en a en ce début d'année. D'ici là, vous prenez soin de vous et on se retrouve toutes et tous sur Radio Immo et bien sûr sur Capital au mois prochain.
C'était le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, une émission présentée par Radio Immo et Capital, à retrouver en podcast sur toutes les plateformes de streaming.